Nous nous trouvons dans les bureaux de la police judiciaire fédérale à Bruxelles, en compagnie du commissaire Bogart. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail ?
Alors, le travail des enquêteurs de la Computer Crime Unit, c'est à la fois d'être des assistants aux enquêteurs classiques, je veux dire le laboratoire numérique, récupérer des informations numériques pour pouvoir aider à l'avancement d'une enquête, mais ce sont également des enquêteurs à part entière quand ce sont les systèmes informatiques qui sont visés. Donc, par exemple, un pirate a réussi à rentrer dans un système informatique, alors c'est nous qui allons être les enquêteurs pour essayer de retrouver le pirate.
Vous travaillez donc autour de tout ce qu'on appelle la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Et puis, est-ce que c'est un phénomène qui est en croissance ?
Alors, la cybercriminalité, c'est une criminalité qui vise les environnements numériques. Donc, c'est essayer de rentrer dans un système pour collecter des données, par exemple, ou paralyser un système. Et c'est une forme de criminalité qui est en croissance, effectivement. On a de plus en plus de chiffres qui montrent que, à la fois le citoyen, mais également les entreprises, sont la cible et tombent dans le piège, malheureusement, avec parfois des conséquences qui sont extrêmement lourdes pour une entreprise qui peut se retrouver complètement paralysée.
Donc la nouvelle que les élèves ont lue raconte l'histoire d'un jeune prodige de l'informatique qui a créé un virus capable de paralyser complètement tous les ordinateurs de la planète, de paralyser aussi toutes les relations informatiques dans le monde. Alors, on ne sait pas s'il va ou pas appuyer sur le bouton, mais croyez-vous que quelqu'un puisse envoyer un tel virus à travers le monde et que nous soyons tous à la merci d'un piratage de grande ampleur ?
Eh bien, c'est même plus de la fiction, puisqu'en fait, ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps. Donc, on a eu une attaque informatique mondiale qui est partie d'une erreur de pirates informatiques qui ont lâché leur virus sans le savoir. Et le virus, qui s'appelait WannaCry, a réussi à circuler dans le monde entier à une vitesse absolument exceptionnelle, profitant d'une faille de l'environnement Windows. Et donc, la faille en question visait des serveurs, et notamment des serveurs qui étaient actifs dans des hôpitaux. Et on s'est retrouvé avec des centaines d'hôpitaux dans le monde qui se sont trouvés paralysés, incapables de fonctionner. Heureusement, au niveau de fonction administrative plutôt que de fonction médicale. Mais voilà, WannaCry est parti, semble-t-il, de l'Asie, côté Corée, est rentré en Australie. Par l'Australie, a réussi à joindre l'Europe via la Grande-Bretagne, puisque, ancienne colonie britannique, l'Australie est encore en lien. Puis est entré chez nous en Belgique, est entré partout en Europe, a réussi à rentrer en Espagne, et là, avec la langue espagnole, a franchi l'océan et se retrouvé en Amérique latine, a commencé à toucher toute une série de structures. Donc ça a été, en 24 heures, hein, quelque chose d'exceptionnel. Il a fallu que plein de structures par rapport à l'alerte se déconnectent et débranchent pour éviter une catastrophe qui soit beaucoup plus grave.
Quels sont, pour vous, vraiment les premiers conseils de bonne pratique à suivre ?
Alors, premier conseil de bonne pratique, je dirais, c'est éviter l'impulsivité. En fait, les pirates vont travailler sur deux éléments. Ils vont jouer de notre curiosité et ils vont jouer de notre inquiétude. Donc, nous allons recevoir des notifications qui vont retenir notre attention, soit par rapport à l'inquiétude, on vous annonce qu'il y a un problème de sécurité avec un compte mail, etc. Ou, par exemple, la curiosité avec un message d'un ami, réseaux sociaux, qui me dit « Écoute, cette vidéo, il ne faut pas la regarder parce que c'est vraiment trop lourd. » Et là, je clique parce que pourquoi je ne peux pas la regarder ? Et je lance à ce moment-là soit le processus de vol de mes données personnelles parce que je me reconnecte, je dois remettre mon identifiant, mon mot de passe, ok, je le fais, soit parce que au moment où je vais cliquer, eh bien, je vois effectivement quelque chose, mais en arrière-plan, le téléchargement d'un logiciel malveillant a commencé. Et là, je dois y être particulièrement attentif. Donc, c'est ça qui va être le conseil de base, éviter l'impulsivité.
Donc tout ça concerne vraiment le piratage, mais quand on parle de cyberharcèlement, que peuvent subir des adolescents à l'école et là dans un contexte finalement beaucoup plus familier. Quel est le risque judiciaire pour les auteurs et puis aussi pour les gens qui assistent à ce genre de choses mais qui restent passifs ?
Alors on va dire qu'il y a effectivement au niveau du harcèlement, un, le fait que beaucoup de jeunes se mettent en scène, on se montre, on s'expose de plus en plus, donc on peut donner les outils par rapport à ce besoin d'exister pour subir évidemment le harcèlement. Ceci dit, le harceleur peut être poursuivi effectivement, puisqu'il y a des lois et des textes du code pénal qui prévoient effectivement que la personne qui va partager des contenus par exemple, qui entraînent ce harcèlement, mais des contenus qui sont des photos partagées sans l'accord de la personne qui y figure, eh bien, risque maintenant, avec les changements qui sont intervenus dans le code pénal, jusqu'à 2 ans de prison ferme. Donc, on a aussi le fait que ceux qui sont là à regarder les photos, qui les partagent, qui les likent, bien, quelque part, je veux dire, avec ce rôle de spect-acteur, vont quelque part avoir une activité négative également. Et donc, on peut imaginer à ce moment-là que le magistrat qui aura connaissance du dossier puisse considérer que ces personnes, par rapport à ce qui est arrivé à la victime, par exemple un suicide, n'ont pas aidé la victime, n'ont pas signalé ce qui se passait. C'est non-assistance à personne en danger. Et ça peut également être poursuivi.
Et pour les victimes, c'est terrible aussi de se retrouver seule avec une quantité de gens qui se liguent finalement, activement ou passivement, contre soi.
Oui, donc du coup, c'est extrêmement important aussi de parler, d'oser en parler. Ça ne veut dire qu'il ne faut pas avoir la honte par rapport à ce qui se passe. On est victime de, ok, on a peut-être fait une petite erreur en termes d'image à un moment donné, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut y aller, il faut foncer, il faut aller vers l'autorité, il faut aller vers les responsables de l'école pour pouvoir dire « voilà ce que je subis ». Et faire des captures d'écran avec les commentaires.
Garder des preuves.
Garder les preuves. Et bientôt, les élèves vont pouvoir profiter d'une application qui s'appelle CyberHelp. Donc CyberHelp permettra de faire des captures d'écran avec les contenus et d'envoyer ça à une équipe qui sera désignée au sein de l'école pour pouvoir prendre connaissance du contenu.
Merci beaucoup.
De rien.